est une donnée essentielle de la vie de l'homme. Nous avons tous besoin d'espérer. Nous avons tous besoin de nous imaginer un avenir pour pouvoir continuer à vivre dignement. Quand on est dans le désespoir, quand on est désespéré, la vie n'a plus de sens. Quand on ne voit pas son avenir et qu'on ne l'imagine pas, il n'est plus intéressant de vivre. Et si nous en croyons les chiffres du suicide en France, beaucoup d'hommes et de femmes n'ont plus d'espérance et donc plus de raison de vivre. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, en France, il y a beaucoup plus de morts par suicide que de morts par accident de la route. Cela implique donc qu'il y a une grosse partie de la population, qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, qui à un moment arrivent dans leur vie à un point de rupture, à un point où ils se disent « il n'y a plus d'avenir pour moi ». Ceux-là qui évitent le suicide, certains pour échapper à cette désespérance, se noient dans l'alcool, dans la drogue, dans des plaisirs sans fin, dans des plaisirs malsains, afin de pouvoir échapper à ce désespoir, cette désespérance. Mais ceux qui sont chrétiens, ceux qui constituent le peuple de Dieu, ils constituent le peuple de l'espérance. Parce que ceux qui sont chrétiens, ils ont une espérance. Leur espérance, c'est de croire en Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement. L'espérance des chrétiens, l'assurance même des chrétiens, c'est de savoir que Jésus est venu un jour pour ôter les péchés du monde et avoir l'assurance qu'un jour Jésus reviendra et qu'il ôtera le péché dans le monde. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Cela signifie offrir à chacun la grâce, offrir à chacun le pardon des péchés, nous montrer la miséricorde de Dieu, dire à chacun de nous, quel que soit ton passé, tes erreurs, le Seigneur t'aime et le Seigneur veut faire avec toi. Mais la Bible dit que Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que ce même agneau reviendra et qu'il ôtera le péché dans le monde. Ceci est clairement présenté dans toute la Bible et singulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons cette espérance qu'un jour nous vivrons dans un monde où il n'y aura plus de deuil, plus de chagrin, plus d'abandon, plus de tromperie. La Bible nous dit que ce monde sera un monde pacifique que l'agneau va établir, instaurer. L'agneau ôtera le péché dans le monde. Prenons nos Bibles et regardons les termes et les images que la Bible utilise pour que notre espérance soit vivante, pour que notre espérance soit claire et simple, et pour que tous puissent comprendre simplement cette espérance. Prenons, si vous le voulez bien, le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Le mot Apocalypse signifie, je vous le rappelle, révélation. Ce livre, c'est la révélation de la manifestation de notre espérance. Apocalypse chapitre 5, il y a une vision de Jean. Vision que nous avons déjà regardée quelquefois à l'église. Mais nous toucherons un aspect particulier ce matin. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, Jean, l'auteur, l'apôtre, le visionnaire, le prophète, il dit, « Je regardais, puis je vis quoi ? Dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, qu'est-ce qu'il voit ? Un livre écrit en dedans et en dehors. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Et je dis à un ange, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Notez bien que celui qui pose la question, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas non plus un ange. C'est un ange puissant. Et l'ange puissant, lui-même, ne peut pas ouvrir le livre. Car il pose une question et il dit, mais alors, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et alors une réponse vient, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et alors, Jean qui a compris que ce livre est important, que ce livre est capital, Jean se met à pleurer. Il pleure beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et puis ensuite, la Bible dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » On lui annonce celui qui peut ouvrir le livre. C'est le lion de la tribu de Juda. Mais quand il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il connaît en tant qu'homme? Qu'est-ce qu'il connaît en tant qu'apôtre? En tant qu'apôtre, il ne connaît pas le lion de la tribu de Juda. En tant qu'apôtre, il connaît l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a fréquenté pendant 3 ans et demi. Il l'a vu mourir sur la croix. Et il voit quoi? Il voit quoi? Au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Au verset 6. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé, il avait 7 cornes. Et il a aussi 7. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ses yeux, ce sont quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et cet agneau bizarre, cet agneau immolé mais vivant, cet agneau bizarre, vint au verset 7. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Celui qui peut ouvrir ce livre, c'est l'agneau immolé. Il est digne d'ouvrir le livre parce que c'est lui qui a racheté pour Dieu des hommes de toute nation, toute langue, toute tribu et tout peuple. Ce livre, c'est quoi? Symboliquement, ce livre, c'est l'histoire du salut. Ce livre roulé, c'est le livre qui contient le plan de la rédemption complet, depuis la croix jusqu'au retour de Jésus, depuis la croix jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Et la Bible dit, un seul est capable d'ouvrir ce livre. Celui-là, c'est l'agneau de Dieu. Pourquoi donc est-il capable, le seul capable d'ouvrir ce livre? Tout simplement, parce que Jésus est le seul capable de dérouler le plan du salut. La Bible ne dit-elle pas qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devrions être sauvés et ce nom c'est Jésus? La Bible ne dit-elle pas que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais nous avons été rachetés par quoi? Le sang précieux de Christ. Oui, mes amis. Ce livre, c'est l'histoire du plan du salut. Ce livre, c'est la révélation du plan du salut. Un seul est capable de mener le plan du salut. Un seul est capable d'ouvrir les sceaux, de dérouler et de déployer le plan du salut, ce seul, c'est Jésus. Mais alors, mes amis, comment va se terminer ce plan du salut? Si nous voulons le savoir, ce sont les 2 derniers sceaux qui nous renseignent comment va se terminer l'histoire du salut. Le septième sceau, nous l'étudierons demain soir, si Dieu veut. Mais pour ce midi, c'est le sixième sceau qui va retenir notre attention. Regardez au chapitre 6, verset 1er. La Bible parle maintenant de l'ouverture du sixième sceau. Autrement dit, une action qui va se passer dans le plan du salut, mais vers la fin du plan du salut. Juste avant le dernier sceau que nous allons étudier demain soir, si Dieu veut. Qu'est-ce qui va se passer dans ce sixième sceau? Apocalypse 6, verset 1er. Je regardais, et quand l'agneau ouvrit, verset 12, Apocalypse 6, verset 12. Je regardais, et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ensuite, les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. » Et la question est posée, qui peut subsister? Le sixième sceau, vous l'avez compris, décrit des événements extraordinaires, des événements d'une puissance extraordinaire. Le monde sera bouleversé. Pourquoi? Parce que l'agneau vient. Mais l'agneau vient, et l'agneau vient en colère. La colère de l'agneau fait trembler le monde, trembler les méchants, trembler les riches et trembler les puissants. Ce sceau est en train de nous dire que lorsque Jésus apparaîtra, il n'y aura pas de force qui tiendra devant Christ. Les grands et les puissants seront effrayés et ils vont préférer que des montagnes tombent sur eux plutôt que de voir la manifestation de la colère de l'agneau. L'agneau reviendra, mais cette fois, ce n'est pas pour ôter le péché du monde, mais ce sera pour ôter le péché dans le monde. La première fois que Jésus est venu, c'était pour ôter le péché du monde. Autrement dit, chaque homme avait la possibilité d'être sauvé par grâce. Mais quand Jésus reviendra, il viendra détruire le mal et tous ceux qui s'attachent au mal. Quand il reviendra, il ôtera donc le péché dans le monde. Le péché sera éradiqué. Ceux qui sont attachés au mal seront éradiqués. Mais mes amis, avez-vous noté que la description de ce sceau se termine par une question? Qui peut subsister? Si on pose la question, cela signifie qu'il y a donc des gens qui peuvent subsister. Parce que sinon, la question n'a pas de sens. Si on pose la question, c'est parce que c'est pas une colère aveugle. C'est pas une colère qui va détruire tout, qui va détruire tout le monde. Si on pose la question, qui peut subsister? C'est parce qu'au jour de la colère de l'agneau, certains vont subsister et d'autres pas. Et ma question ce matin, avez-vous envie de savoir qui peut subsister à la colère de l'agneau? Avez-vous envie de savoir si vous et moi, nous pourrons subsister à la colère de l'agneau? Alors si vous avez ce désir, rassemblez toutes vos forces et concentrons-nous pour les minutes à venir. Si je veux savoir qui va subsister à la colère de l'agneau, il me faudrait trouver dans les évangiles un endroit où l'agneau a eu une forme de colère. Et je vais regarder dans les évangiles où est-ce que l'agneau a eu une forme de colère pourquoi il a eu cette colère et qui a subsisté à cette colère. Alors nous trouvons dans les évangiles deux épisodes où le Christ, l'agneau de Dieu, a eu une forme de colère ou d'indignation. Nous trouvons cela deux fois dans le ministère de Jésus. Une fois au début de son ministère et une fois à la fin de son ministère. Regardez dans vos Bibles. Prenez l'évangile de Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Dans l'évangile de Jean au chapitre 2, il est compté là le premier miracle de Jésus. Premier miracle qu'il fit aux noces de Cana. Donc Jean chapitre 2, c'est le début du ministère de Jésus. Il a fait son premier miracle, il est au tout début de son ministère, et tout au début de son ministère, Jésus va vivre une première fête de Pâques. Et durant cette première fête de Pâques, Jésus va au temple. Jésus va au temple, et quand il arrive au temple, eh bien alors, Jésus est surpris par quelque chose. Lisez avec moi. Jean 2, verset 13. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem, comme beaucoup de Juifs. Et puis voilà, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et de changeurs assis. Il y a un véritable commerce dans le temple. Il y a des gens qui sont assis dans le temple et qui font du business. Ils offrent, ils vendent très cher des animaux pour que les adorateurs puissent offrir un sacrifice. Mais ils ne le font pas selon le plan de Dieu. Ils font du business. Ils font véritablement un marché. Et ceux-là même qui vendent ces agneaux, ils ne sont pas tout à fait au clair devant Dieu. La preuve, Jésus va réagir. Il va réagir. Et la Bible dit, au verset 15, Jésus ayant fait un fouet avec des cordes, les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Quand Jésus est indigné, quand il a une forme de colère, il chasse du temple des personnes qui sont des personnes religieuses, qui sont des gens qui normalement travaillent dans le temple, mais ils ont perverti le système. Ils ont utilisé un système d'adoration pour leur enrichissement. Et j'aimerais vous dire que lorsque Ellen White commente ce passage, elle écrit dans le livre Jésus-Christ, à la page 585, sa voix, la voix de Jésus, résonnait comme le son d'une trompette à travers le temple. L'indignation se reflétait sur son visage. Il donnait l'aspect d'un feu consumant. Certains diraient, il était rouge de colère. Mais ceux qui disent ça, je les laisse responsables de leurs propos. Mais en tout cas, il avait une attitude d'indignation. Il n'était pas content. Il a fait un fouet. Il a chassé des hommes du temple. Première fois, au début de son ministère. Deuxième fois, à la fin de son ministère. Seulement quelques heures avant sa mise à mort. Prenez Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, verset 7. Matthieu 21. Et regardons la deuxième fois que Jésus a fait la même chose. Comment cela s'est passé? Et pourquoi cela s'est passé ainsi? Matthieu 21. Vous avez trouvé? Matthieu 21, verset 7, regardez. La Bible dit, dans ce passage, qu'ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus Jésus. Autrement dit, L'histoire qui va suivre se passe quand Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem juste avant sa crucifixion. Et pareil, Jésus rentre à Jérusalem. Il rentre sur un ânon. Il rentre en gloire. Et quand il arrive dans le temple, il est indigné. Il est choqué. Regardez au verset 11. La Bible dit, la foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa, qui est-ce? Qui c'est que Jésus chasse? Tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Alors là, nous avons une précision. C'est pas seulement les vendeurs, mais il chasse aussi ceux qui achètent. Donc, il chasse ceux qui ont organisé le business, mais il chasse aussi ceux qui sont venus pour adorer et qui achètent des animaux pour offrir un sacrifice. Il les chasse tous. Et regardez la suite. La Bible dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Oh, mes amis, voilà pourquoi l'agneau est en colère. Parce que certains, tant au niveau des prêtres et des organisateurs de la vie du temple, qu'au niveau de ceux qui sont venus pour adorer, certains ont transformé la maison du Père en une caverne de voleurs. Et quand Jésus voit ça, il est indigné, il est en colère, si je puis m'exprimer ainsi, et il chasse ces gens du temple. Oh, mes amis, mais une question, une autre question. Que signifie changer la maison du Père en une caverne de voleurs? Vous savez, mes amis, c'est pas Jésus qui a inventé cette expression. Cette expression est déjà dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà, le Père, employé cette expression avec son peuple, le peuple d'Israël. Et dans l'Ancien Testament, l'expression est déjà définie. Regardez avec moi, sans perdre Matthieu 21. Ne perdez pas cette page. Mais regardez avec moi Jérémie chapitre 7. Et découvrons qu'est-ce que ça signifie que transformer la maison de l'Éternel en une caverne de voleurs. Mes amis, pendant que nous cherchons ce texte, prions le Seigneur pour que son esprit donne à chacun de nous un esprit de contrition et de révélation tandis que nous lirons ce texte. Dans Jérémie chapitre 7, l'expression était déjà employée. Voici, nous lisons à partir du verset 8. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 8, Jésus utilise une citation de Jérémie. Qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 7, verset 8? Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober? Tuer? Commettre des adultères? Jurer faussement? Offrir de l'encens à Baal? Aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Puis, vous venez, vous présentez devant moi. Je reprends la lecture, frères et sœurs, parce que c'est important. Reprenons cette lecture et regardons le mouvement. Dieu dit à son peuple, attention, vous vous livrez à une espérance trompeuse. Quelle est cette espérance trompeuse? Eh bien, tout le temps, toute la semaine, eh bien, vous tuez, vous dérobez, vous commettez l'adultère, vous jurez faussement, c'est-à-dire vous mentez, vous offrez de l'encens à Baal, vous faites du quimbroi, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis, qu'est-ce qui se passe? Vous venez, vous présentez devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. C'est ça une espérance trompeuse. On fait comme on veut. On fait comme on l'entend. On fait nos affaires. Et puis, il y a un jour, on vient au temple. Et on achète un agneau. On vend des agneaux. On offre un sacrifice et on dit, je suis délivré. Aujourd'hui, nous n'achetons pas d'agneau, mais il pourrait arriver, et vous notez bien, il pourrait arriver. Je ne dis pas que ça arrive, je dis il pourrait, peut-être. Je n'ose même pas imaginer ça. Il pourrait arriver que pendant la semaine, nous puissions dérober, tuer, mentir, voler, aller chez le quimboiseur, et puis, de temps en temps, venir au temple, acheter un agneau, mais comme l'agneau c'est Jésus, alors on prie Jésus et on dit, je suis délivré. Mais Dieu dit que ça c'est une espérance comment? Je ne voudrais vous entendre, frères et sœurs. Ça c'est une espérance comment? Trompeuse, frères et sœurs. C'est vrai que Dieu nous donne une espérance. L'espérance que Jésus reviendra et qu'il va délivrer ses enfants, que ceux qui ont commis des péchés, qui les ont confessés, ils sont pardonnés et ils hériteront de la vie éternelle. Ça, c'est l'espérance que Dieu nous donne. Mais quand nous avons une double vie, deux cartes d'identité, deux visages, deux pratiques, et que nous disons, mais quand même, je suis au temple, donc je suis délivré. La Bible dit que ça, c'est une espérance qui est comment? Trompeuse. Et regardez la suite avec moi, je vous prie. Au verset 11, regardez ce qui est dit là. En parlant du temple, de la maison de Dieu, il est dit, Jérémie 7, verset 11, « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Mes frères et sœurs, cette semaine, notre thème c'est le peuple de l'espérance. Notre espérance, c'est que Jésus vient bientôt. Notre espérance, c'est que même si nous avons commis des péchés, si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Notre espérance, c'est que malgré nos erreurs, nos manquements, le Seigneur prépare pour nous un royaume et la vie éternelle. Mais il y a à côté de cela une espérance trompeuse contre laquelle Dieu nous met en garde ce matin. Dieu nous dit, mon enfant, ne te livre pas à une espérance trompeuse. Et ce message, c'est pas seulement pour ceux qui achètent les agneaux, c'est aussi pour ceux qui vendent les agneaux. C'est pas seulement pour les adorateurs qui viennent, mais c'est pour les organisateurs du culte. Ce message est de nous dire, mes enfants, ceux qui sont chassés par l'Éternel, ceux qui subissent la colère de l'agneau, ce ne sont pas ceux qui se sont égarés. Ce ne sont pas ceux qui se sont trompés un jour. Ce sont ceux qui mènent une double vie. Ceux qui font n'importe quoi et qui viennent et qui disent, nous sommes dans le temple, nous sommes sauvés, nous sommes adventistes, nous sommes sauvés. La Bible dit que ça, c'est une espérance trompeuse. Mes amis, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons dans le temple. Et le premier temple, c'est pas le bâtiment de Smyrne. Le premier temple, c'est ton corps, c'est mon corps. Tu ne peux faire ce que tu veux dans le temple de l'Éternel. Ton corps est le temple du Seigneur. Tu ne peux manger comme tu veux, boire comme tu veux, utiliser ton corps comme tu veux et venir après et prier et dire, nous sommes sauvés. Ça, c'est une espérance trompeuse, mes amis. Mais nous l'avons dit au début,
Dans l'Apocalypse, il est dit, à la fin du sceau numéro 6, qui peut subsister? Cela signifie que lorsque l'agneau est en colère, certains sont détruits, mais d'autres subsistent. Mais alors, mes amis, qui sont ceux qui subsistent? Nous savons maintenant qui sont ceux qui sont éradiqués, chassés. Mais laissons-les de côté, parce qu'aucun de vous n'est dans cette situation. Amen. Intéressons-nous plutôt à ceux qui subsistent. Qui sont-ils? Revenez avec moi, je vous prie. Dans Matthieu 21. Et regardez avec moi qui sont ceux qui subsistent. Regardez, mes amis, la beauté de la rédaction de ce texte. Regardez comment il y a un mouvement fort intéressant. Matthieu chapitre 21. Et nous poursuivons notre lecture. Matthieu 21, reprenons depuis le verset 12 et observons le mouvement. Matthieu 21, verset 12, la Bible dit, Jésus, premier mouvement, qu'est-ce qui se passe? Entra dans le temple. Jésus entre dans le temple. Et quand Jésus entre dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse qui? Ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Donc, quand Jésus rentre, certains sortent. Oui, mes amis, quand Jésus viendra, quand il va rentrer dans notre espace, quand il va pénétrer l'atmosphère, certains vont partir. Mais ce n'est pas tout. Regardez la suite. La Bible dit qu'il va leur faire des reproches, leur dire « Ma maison n'est pas une caverne de voleurs ». Et regardez au verset 14 ce qui est dit. Au verset 14, il est dit, des aveugles et des boiteux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Et alors, qu'est-ce que vous lisez maintenant? Et des enfants qui criait dans le temple, Hosanna au fils de David. Mais bien-aimés frères et sœurs, l'agneau ôtera le péché dans le monde. Jésus reviendra. La Bible dit que c'est un agneau en colère qui reviendra. Mais lorsque nous lisons les évangiles, nous savons que la colère de Jésus n'est pas une colère aveugle. Ce n'est pas une colère qui emporte tout sur son passage. Quand Jésus est en colère, certains sont chassés, d'autres sont attirés. Les vendeurs et ceux qui achètent sont chassés, mais les aveugles et les boiteux sont attirés. Et quant aux enfants, les enfants qui devraient avoir peur de quelqu'un en colère, la Bible dit qu'ils chantent, qu'ils crient, et qu'ils disent quoi? Hosanna au fils de David. Mes amis, voici l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est que nous servons un Dieu qui sait faire la différence entre celui qui a un cœur pourri et celui qui est boiteux. Le Seigneur connaît ceux qui marchent et qui boitent. Et je suis sûr que dans l'église, il y a ceux qui marchent et qui boitent. Ils boitent tellement que parfois ils tombent. Pas vrai, frères et sœurs? Oui, mes frères et sœurs. Dans l'église, il y a ceux qui marchent et qui boitent. Ceux qui sont parfois en un instant aveuglés par quelque chose. Et tellement ils sont aveuglés, ils vont culbuter. Est tombé. Mais la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa colère, les boiteux et les aveugles seront attirés et le Seigneur les guérira. Mon frère, ma sœur, le Seigneur connaît notre chair. Le Seigneur connaît tes faiblesses. Le Seigneur connaît le monde de tentation dans lequel tu vis. Et si jamais cette semaine, tu as boité, tu es tombé. Si jamais cette semaine, tu as été aveuglé et tu as heurté un poteau et que tu es tombé à la renverse, sache que le Seigneur t'attire ce matin afin de te guérir, autrement dit, afin de pardonner ton péché. Sache aussi que si tu es un enfant, que tu commences la course, tu ne sais pas encore les pièges de la vie spirituelle. Et en tant qu'enfant, tu as raté une marche. Le Seigneur te dit ce matin, chante Hosanna au fils de David, car tes péchés sont pardonnés. Mais le Seigneur dit aussi ce matin, à ceux qui prennent sa maison pour un champ de bataille, à ceux qui considèrent sa maison pour un territoire de chasse, à ceux qui considèrent que dans sa maison, il y a des proies faciles, des âmes faibles, qu'on pourrait tromper financièrement, qu'on pourrait tromper sur le plan affectif et amoureux. Le Seigneur dit à ses prédateurs, ne vous livrez pas à une espérance trompeuse. Car mes amis, le Seigneur sait faire la différence entre celui qui boite et celui qui est un prédateur. Oh mes amis, puisse le Seigneur nous bénir ce matin. Et puisse ce message, peut-être douloureux, s'inscrire dans nos mémoires. Car ce message montre en fait la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la clairvoyance de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, n'a pas une colère aveugle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur connaît les enfants fidèles qui trébuchent et qui tombent. Oh mon ami, même si tu tombes parfois, tu dois vivre l'espérance du retour de Jésus. Même si tu trébuches parfois, il te faut avoir cette espérance. Même si tu as eu un malheur dans ta vie, oh je t'en supplie, ne pense pas au suicide. Je t'en supplie, ne pense pas à l'alcool. Ne pense pas à la drogue. Ne te détruis pas. Relève-toi, regarde à Jésus et sache que Jésus accueille et guérit les boiteux et les aveugles. Oh mon enfant, l'espérance chrétienne est pour toi. Il est temps pour toi d'entrer dans le peuple de Dieu. Oh oui, c'est vrai, dans le peuple de Dieu, tu vas rencontrer quelques prédateurs, quelques hypocrites. Mais fais attention à une chose. Que toi-même, à leur contact, tu ne deviennes pas prédateur et hypocrite. Ne t'occupe pas d'eux, occupe-toi de toi et laisse le Seigneur s'occuper de ses enfants. Oh, mes bien-aimés, nous commençons une semaine où nous allons parler de l'espérance chrétienne. Mais nous voulons faire la différence entre l'espérance chrétienne et l'espérance trompeuse. Mais gloire soit à Dieu. Béni soit le Seigneur. Car personne ne repartira d'ici ce matin avec l'espérance trompeuse. Même si nous étions venus avec, comme le Seigneur a parlé, comme le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, le Seigneur dit, personne ne repartira d'ici avec une espérance trompeuse. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, pendant qu'un chant sera chanté, à vous incliner, ne regardez pas ceux qui chantent et priez dans vos cœurs. Et lorsque le chant sera fini, nous prierons avec tous ceux qui veulent dire, Seigneur, mets dans mon cœur l'espérance chrétienne et si nécessaire, enlève l'espérance trompeuse. Écoutez ce chant. Pendant ce chant, prions, fermons les yeux, que chacun parle à son Dieu et ensuite nous prierons ensemble.
Jéhovah est son nom. Alléluia.